Nous poursuivons la matinée en parlant de pain, c'est une logique, hein, sur un salon qui s'appelle Sierra Europain et qui se consacre à la boulangerie et à la pâtisserie. Nous allons parler pain durable, éco-responsable, éthique, une démarche à 360 degrés de la production à la transformation, à la distribution. Nous allons parler de gaspillage durant les 40 prochaines minutes avec nos deux intervenants. À ma droite, Mickaël Ballet, directeur associé de Food Service Vision. Bonjour Mickaël. Et à côté de vous, il y a Katia Tardy, cofondatrice de la biscuiterie Quignon.
Bonjour.
Une biscuiterie anti-gaspi. J'ai commencé par vous, Mickaël. Si je vous dis pain durable, qu'est-ce que ça vous évoque ? La première chose qui vous vient à l'esprit quand on parle de pain durable.
Oui, bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit quand on se parle de pain durable, puisque la filière de la boulangerie, globalement, a vraiment énormément travaillé sur ces thématiques-là et quasiment sur toute la chaîne de valeur du métier. Hein. Quand on dit pain durable, on pense évidemment à la matière première et d'où elle vient, avec le développement des farines locales, des moulins locaux, de l'investissement de plus en plus fort de boulangeries dans la filière amont avec du financement ou du cofinancement d'agriculture, par exemple. Quand on se parle de pain durable, on va se parler évidemment de gaspillage avec un super témoignage de Katia qu'on aura là-dessus et différentes finalement stratégies que mettent en place les boulangers pour moins gaspiller. Et puis, quand on se parle de durable, on se parle aussi sur la partie sociale de la RSE, donc évidemment sur la problématique du recrutement, de la gestion du personnel en boulangerie-pâtisserie. Et il y a un certain nombre d'initiatives autour de la réinsertion ou du travail des personnes en situation de handicap qui sont aussi des solutions à la problématique globale de la filière sur l'emploi.
Vous constatez une véritable évolution là-dessus chez Food Service Vision, à savoir qu'on inclut de plus en plus, on tente de prendre soin de gens qui sont confrontés à un métier somme toute difficile.
Oui, ouais, très clairement, la problématique de personnel a été un peu le révélateur ou l'accélérateur de ce genre de choses, mais de manière fondamentale et globale, on a la filière qui est de plus en plus impliquée sur une dimension sociale d'intégration. La boulangerie est au cœur des Français, au cœur du quotidien des Français, et donc prend à cœur ce rôle sociétal qu'elle a là-dessus. Alors, on le voit en boulangerie, on en reparlera, j'imagine, avec de plus en plus d'initiatives autour de la réinsertion. Et globalement, c'est un phénomène que l'on voit dans tous les circuits de la restauration et du hors-domicile de manière générale, avec l'exemple de la table de Cana, par exemple, sur les traiteurs qui travaillent beaucoup sur l'insertion de personnes en difficulté. Et la boulangerie n'est pas à la peine avec plusieurs boulangeries, y compris des indépendants locaux qui travaillent sur l'insertion. J'ai en tête une boulangerie à Nice, par exemple, qui travaille sur l'insertion, où il y a une prison également dans le centre de la France qui a internalisé une boulangerie dans la prison et qui forme du coup les personnes qui sont dans la prison, qui permet à la fois les former pour leur sortie et préparer leur sortie, et en même temps de pouvoir les intégrer tout au long de leur séjour pénitentiaire.
Quelles sont les démarches à initier pour intégrer quelqu'un en réinsertion dans son entreprise? Parce que j'imagine que quand on est indépendant, ça n'est pas si simple que cela.
Non, c'est pas simple. Alors, je laisserai Katia nous parler sur les personnes handicapées, avec handicap. Sur la réinsertion, la plus grosse difficulté en réalité, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont en dehors des radars. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle d'emploi, qui ne sont pas visibles par les différents canaux habituels de recrutement, je dirais. Donc il y a tout un travail vraiment sur le terrain. Et généralement, ça se fait de pair avec des associations locales qui sont justement au secours de ces personnes en difficulté, qui savent les repérer, qui savent les accompagner et qui les amènent, les introduisent, je dirais, auprès de ces boulangers. Donc c'est vraiment un travail très, très local et qui maille à la fois le secteur associatif et les boulangeries ou d'autres types de restauration.
Alors Katia, on va vous entendre. Katia Tardy, cofondatrice donc de la biscuiterie Andy Gaspi. C'est un nom assez clair. J'ai envie que vous nous racontiez un peu votre parcours. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené tout d'un coup à vouloir fabriquer des biscuits et de surcroît dans des ESAT? Vous allez pouvoir aussi expliquer, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la signification de ce terme.
C'est vrai. Donc en fait, nous, l'aventure, elle est partie de deux constats. Donc il y a une de mes associées qui est ici, vous la reconnaîtrez facilement. Donc en fait, nous toutes les trois, donc il y en a une troisième, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires et on a travaillé pour différents industriels. On s'est rendu compte que le gaspillage, c'était une réalité, que c'était un véritable fléau et qu'il y avait encore beaucoup trop d'aliments qui finissaient dans nos poubelles. Et quand on a commencé à creuser sur quels étaient les aliments les plus jetés, on s'est assez vite rendu compte que le pain, on n'a pas l'impression que c'est un gros déchet, parce qu'en fait, c'est plein de petits flux un peu éclatés. Chaque boulanger a chaque soir quelques pains invendus sur les bras, mais à l'échelle d'un pays comme la France, où le pain, c'est le produit phare de notre alimentation et c'est l'emblème du pays, bah, c'est 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées chez les boulangers chaque année. Et à côté de ça, en fait, quand on a quitté et démissionné nos industries agroalimentaires pour s'engager sur des projets plus vertueux, on a travaillé quelques mois dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap avec mes deux associés. Et là, on s'est rendu compte du manque d'activité professionnelle pour le public en situation de handicap et notamment du manque d'activité dans les ESAT, donc ESAT, établissements et services d'aide par le travail, ce qu'on appelait avant des CAT. Donc, ils sont des structures qui sont mises en place pour accompagner vers l'emploi des personnes en situation de handicap, plutôt mentales et psychiques. Mais ces structures-là sont de moins en moins subventionnées et de moins en moins sollicitées par les entreprises et les industriels. Donc, concrètement, ils jouent au Uno parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Alors, en termes de confiance en soi, de montée en compétences, ce n'est pas du tout ce qui est recherché. Donc, on s'est dit, d'un côté, il y a du gaspillage alimentaire et de l'autre, il y a des ESAT sur les territoires un peu partout qui ont des locaux, des équipes et l'envie de s'investir sur de nouveaux projets. On s'est dit, ben, il y a quelque chose à faire pour réunir ces deux constats-là. Et donc, c'est comme ça qu'est née la biscuiterie anti-gaspi avec nos deux piliers qui sont le handicap et l'anti-gaspi. Donc, tous les biscuits qu'on a ramenés sont fabriqués et conditionnés par des personnes en situation de handicap. Et nous, notre modèle, c'est de nous installer dans les ESAT, parce qu'ils ont déjà des locaux, ils ont déjà des équipes, mais ils n'ont pas d'activité. Donc nous, on installe des biscuiteries dans les ESAT, on les forme sur ce nouveau métier, et on les accompagne pour qu'ils puissent vraiment gérer toute la fabrication et tout le conditionnement, et qu'ils portent toute la chaîne de valeur du projet. Et la partie anti-gaspi, elle est basée sur la revalorisation d'un vendu alimentaire. Et le premier invendu auquel on s'est attaqué, et c'est pour ça qu'on s'appelle Quignon, c'est le pain. Donc on récupère les invendus de pain des boulangers bio locaux qu'on transforme en chapelure. Donc tous les matins, on a entre 300 et 500 baguettes qui arrivent. Enfin, l'équivalent, parce que c'est pas que des baguettes, mais l'équivalent de 300 à 500 baguettes qu'on broie et qu'on intègre dans nos recettes en guise de farine. Ça remplace plus de la moitié de la farine dans chacune des recettes des biscuits.
Alors, il y a deux questions à se poser. Déjà, la première, comment est-ce que vous avez référencé les boulangers qui acceptaient de vous livrer leur pain gratuitement, j'imagine ?
Alors non, il faut aussi que ce soit intéressant pour eux.
Ah, ok. Donc
on veut aussi, en fait, on voulait aussi valoriser tout le travail qu'il y avait eu en amont de leur part sur les matières premières, sur le travail humain et sur l'énergie. Donc, on achète les invendus aux boulangers. Alors, comment est-ce qu'on les sélectionne ? Déjà, c'est que nos recettes sont 100% bio, donc c'est que des partenaires bio. Et après, d'un point de vue impact carbone et intérêt économique, on ne se déplace pas pour 5 baguettes. Donc on se déplace pour des grosses quantités. Donc on travaille avec des acteurs qui sont capables de nous massifier des quantités d'invendus. Donc soit des gens qui ont plusieurs fournils, soit des gens qui ont des chaînes de boulangerie. Pas forcément des grosses chaînes, mais en tout cas qui sont capables autour de Nantes, parce qu'aujourd'hui on est à côté de Nantes, de nous centraliser tous leurs invendus. Ou des petits industriels du pain bio. Et du coup, tous les matins, on a ce pain qui arrive et qu'on transforme directement en flux tendu.
Alors, la deuxième question, c'est que la baguette, c'est un pain blanc qui est peu savoureux, donc on peut facilement réintroduire. Mais si on parle de pain fait au levain, qui ont un certain parfum, parfois même une acidité, comment est-ce que vous faites pour gérer
Alors, nous, on n'est pas difficile. On accepte tout type de pain.
Donc, vous mélangez tout.
Ouais, du coup, c'est pour ça que nos listes d'ingrédients sont assez longues. C'est qu'on est obligé de déclarer tous les ingrédients de tous les pains. Donc, on a plusieurs types de farine, plusieurs types de graines. Et en fait, on s'est rendu compte... Donc, Alix est la personne en charge du développement des recettes dans l'équipe. Elle les développe, on les mange. Et en fait, on s'est rendu compte que quel que soit le mélange de départ de pain, le fait qu'après, ce soit mélangé avec de la farine de blé, de sarrasin et qu'on ait du beurre, des œufs, du sucre, du chocolat, du citron, en fait, le goût et la texture finale sont toujours la même, quel que soit l'approvisionnement en pain. Donc, quels que soient les pains qui arrivent, on a des énormes pains de campagne, des petites baguettes blanches, de la farine complète, semi-complète, des farines de tout type. Et ça n'a pas d'impact sur le résultat final et sur le biscuit qu'on vend.
De quelle manière est-ce que vous transformez ? Est-ce que le pain est simplement rassis ou est-ce qu'il est préalablement torréfié, puis
non.
Réduit en farine ?
On ne voulait pas rajouter d'étape énergivore. Donc, il est vraiment broyé quand on le reçoit. Et on le reçoit souvent mou. Hein. C'est du pain de la veille. Donc, okay. Il est rarement dur. Et du coup, on le broie mou et on l'intègre tout de suite après. Il est broyé le matin et intégré le jour même dans nos recettes.
Et on obtient quoi quand on broie du pain mou ?
Une chapelure qui est...
Mais une vraie chapelure ?
Oui, une vraie chapelure.
D'accord,
en fait, on a un broyeur
qui ne se laisse pas impressionner par un peu de mollesse
voilà, exactement.
Du pain de la veille.
Donc, on est sorti de l'univers de la boulangerie. On allait taper dans d'autres savoir-faire pour avoir un broyeur qui était capable de broyer du mou. Et du coup, on obtient une chapelure, une belle chapelure assez homogène.
Okay. Et qu'on intègre. Réintroduite à quel pourcentage ?
Un peu plus de la moitié de la farine qui est remplacée.
Ça fonctionne de la même façon, enfin, où vous êtes obligé d'ajuster la recette pour avoir un taux d'humidité qui est peut-être supérieur pour rectifier. Non, du coup,
alors ça, Alice saura mieux répondre, mais.
Alice, venez.
Viens.
Venez répondre.
En plus, il y a un micro pour toi.
Et vous pensiez y échapper, installez-vous. Regarde, et le canapé est grand.
Elle n'était pas discrète sur la chaise.
Non. Du coup, ça ne change rien pour l'humidité. Nous, on a quand même, on rajoute un peu de jus de citron quand même dans la pâte à biscuit, mais comme dans une pâte à biscuit normale. En fait, le fait de rajouter de la farine de blé, c'est ça qui va vraiment jouer son rôle de gluten, d'amidon et qui va apporter tout ce qu'il faut pour la pâte pour que ça puisse passer en machine et qu'après la cuisson, ça donne aussi un biscuit qui se tient. Et qui est bon et qui est croustillant.
Donc vous utilisez les machines pour les biscuits ?
Oui.
Ok.
Oui. En fait, l'atelier dans les ZAD, c'est quand même semi-industriel, donc c'est pas artisanal comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Mais du coup, on a quand même des machines. On a un pétrin, on a une dresseuse coupe-fil pour faire les biscuits, et puis après on a un gros four qui permet aussi de cuire.
En fait, c'est mécanisé, mais j'imagine aussi pour une praticité d'utilisation avec un personnel qui souffre d'un handicap.
C'est ça. Du coup, on a vraiment pris en compte leur handicap. On a travaillé du coup avec les moniteurs de l'ESAT pour voir quelle machine serait adaptée pour chaque handicap. Et au niveau du bruit sonore aussi, on a fait attention à ça parce que si ça fait trop de bruit, malheureusement, les personnes en situation de handicap ne seraient pas à l'aise et du coup, ne seraient pas bien dans leur travail. Donc voilà, on a pris tout ça en compte pour pouvoir mettre les machines chez eux et installer l'atelier chez eux dans l'ESAT.
Donc ce sont les moniteurs présents qui accompagnent le personnel pour qu'il soit, je dirais, le plus à l'aise possible face à la tâche qu'il doit accomplir dans la journée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment travaillé avec eux. Nous, on a formé les moniteurs sur l'activité biscuiterie. On a aussi formé les personnes en situation de handicap. Et avec les moniteurs, on a réfléchi à comment mettre des procédures assez simples pour pouvoir faire le travail en autonomie quand nous, on n'est pas là. Donc voilà, par exemple, on a mis des gommettes de couleurs.
Il y a des gommettes de partout.
Ouais. Des gommettes de couleurs en fonction des recettes, en fonction. Enfin voilà. Du coup, c'est vraiment visuel. Et même pour les personnes qui ne savent pas lire, ils savent que par exemple, citron, c'est l'étiquette jaune. Et du coup, ils vont aller directement trouver les paquets citron amande.
Vous avez un dialogue direct avec les personnes qui sont employées dans les ZAD ? C'est-à-dire que vous leur donnez des directives, parce que j'imagine qu'il y a une attitude à adopter en fonction du handicap. Parce que vous nous parlez d'handicap psychologique, donc je pense que ça ne doit pas être forcément facile tout le temps, selon les profils. Je veux bien que vous nous parliez un peu de ça, parce que je pense que c'est intéressant.
Alors là, vu que c'était notre premier atelier, c'est notre crash test, donc on y a passé beaucoup de temps, surtout Louise et Alix, elles étaient à temps plein. Donc elles ont, en fait, on co-construit vraiment le projet avec eux en fonction de leurs envies, de ce sur quoi ils montent en puissance, ce sur quoi ils ont envie d'être formés. Et les psychologues, ergothérapeutes et moniteurs nous aident aussi beaucoup à comprendre. Après, avec de la patience, de la bienveillance et de l'écoute, finalement, en plus, ils ont tous un profil différent. Donc, et nous, on ne sait pas quel est leur handicap. Ils ne nous disent pas un tel bipolaire, un tel schizophrène, bien un sûr. Tel est trisomique. Voilà, ils sont tous là, tous dans la biscuiterie, et on avance avec eux. Et en fait, au quotidien, tu me coupes si je me trompe, mais on n'a pas l'impression de nous adapter ou d'être différentes. C'est on avance, on est tous embarqués dans la même aventure, et on a vraiment envie qu'ils se sentent embarqués dans l'aventure et qu'ils ne soient pas juste là pour la fabrication dans les ZAD un peu cachés. Mais on avait vraiment envie de les mettre en lumière, de les exposer dès qu'on peut faire venir les journalistes, ouvrir les ZAD pour qu'ils puissent eux-mêmes témoigner de leur rôle. On le fait aussi souvent que possible.
Et d'ailleurs, ils sont super fiers de ça. Nous, on a des témoignages des familles où, du coup, ils disent, mais en fait, depuis que la biscuiterie est arrivée dans les ZAD, déjà, on sait ce qu'ils font dans les ZAD parce qu'avant, ils n'en parlaient pas du tout. Et en plus, du coup, on voit vos produits en magasin. Donc, il est super fier. À chaque fois qu'il vous voit, il va nous réexpliquer ce qu'il fait dans la biscuiterie. Et c'est vraiment c'est une aventure humaine qui est super.
C'est la question que j'allais vous poser. J'allais vous demander si vous aviez l'impression de leur faire du bien. Et je pense que c'est ça. C'est...
Et nous, ça nous booste beaucoup parce qu'on vient de l'industrie agroalimentaire. Et souvent, sur les lignes de prod, honnêtement, en industrie classique, c'est loin d'être fun. On sent que les gens, ils subissent un peu et que les rires ne sont pas très nombreux. Et là, au contraire, en fait, ils sont hyper contents, hyper fiers. En fait, c'est assez rare dans les ZAD de voir tout le produit de A à Z. Souvent, ils sont dans de la sous-traitance sur le conditionnement. Donc, ils mettent des vis dans une boîte en carton. Et je caricature pas tellement en disant ça. Là, ils voient vraiment tout. Ils voient le pain arriver. Et ensuite, ils vont jusqu'à livrer les produits en magasin et à faire des animations en magasin pour expliquer le concept aux gens. Donc, ils voient vraiment toute l'histoire. Et ils sentent que le projet plaît et que les journalistes s'intéressent. Et que du coup, il y a beaucoup de visites. Il y a beaucoup de gens qui viennent les voir, qui viennent s'intéresser à ce qu'ils font. Alors que d'habitude, un ESAT, faut pas se cacher, c'est un peu caché, c'est un peu mis de côté, on se rend même pas compte qu'il y a un ESAT au bout de sa rue parce que c'est pas du tout des structures qui sont mises en avant. Donc là, ils sont hyper fiers de ça et ils peuvent. Il y en a un qui vient de quitter la biscuiterie parce que il avait voulu faire les livraisons, il voulait absolument livrer les clients lui. Donc il s'est mis sur cette partie-là et ça lui a tellement plu cette partie-là qu'il vient de passer son permis bus scolaire et maintenant il conduit les enfants le matin, donc il a quitté l'ESAT. Il est passé en milieu ordinaire, c'est ça le terme, il a quitté le milieu adapté et protégé et il est en milieu ordinaire. Bon, du coup, nous, on est triste parce qu'on a perdu notre meilleur livreur, mais on est ravis pour lui parce qu'en fait, quitter le secteur du handicap pour aller dans le milieu ordinaire, c'est quand même assez rare.
Mais c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que ça joue dans la thérapie, hein. Oui, c'est vraiment une thérapie.
C'est clair. Et puis, ouais, on sent qu'ils ont envie que le projet grandisse, ils l'ont vu naître. Ils ont vu les tout débuts où on vendait deux pauvres paquets au magasin du coin. Ils voient maintenant, on est distribué dans toute la France et que le projet est vraiment en train de grandir et ils le vivent avec nous. Et du coup, c'est assez chouette à voir et à vivre.
Vous existez depuis combien de temps ?
Alors, on a fait nos toutes premières ventes il y a 2 ans, mais on commercialise au national depuis 1 an.
Ok. Donc et là, pour l'instant, il y a une installation dans un ESAT.
C'est ça.
Et quels sont vos projets ?
Ah bah, cette année, 2024, on part à la conquête des autres régions. Nous, depuis le début, le projet, c'était d'ouvrir plein de petits ateliers pour vraiment valoriser les invendus de pain là où ils sont. Parce que malheureusement, il n'y a pas qu'à Nantes qu'on a des invendus de pain.
J'imagine.
Et créer de l'emploi dans d'autres ESAT, parce que des ESAT qui manquent d'activité, il y en a aussi partout en France. Donc l'idée, à partir de cette année, c'est vraiment d'ouvrir d'autres ateliers pour créer plein de petites unités en circuit court, pour que nous, on puisse vraiment répondre à une demande nationale et avoir la force de frappe d'un industriel, mais en nous appuyant sur ce maillage-là. Et du coup, on est en train de discuter avec Paris, Lille et Lyon pour ouvrir les ateliers cette année là-bas.
J'imagine que vous avez un accueil favorable partout.
Pour l'instant, oui, on est vraiment poussé par vents favorables. Et on, quel que soit l'acteur en face de nous, que ce soit un acteur considéré comme étant militant ou engagé ou d'autres qui ont moins cette image-là, quelle que soit la taille de nos interlocuteurs, ils ont tous envie de nous aider, d'aider le projet à se développer. Et du coup, ça nous booste vraiment.
On sent, hein, je pense, Mickaël Ballet, vous pouvez confirmer ça, on sent qu'il y a vraiment, je dirais, un pouvoir inclusif fort depuis, je dirais, 5, 6, 7 ans. On a eu notamment les personnes porteuses de trisomie qui travaillent aujourd'hui dans des cafés, dans des restaurants. Non, mais je trouve que c'est quand même... C'est très positif comme mouvement parce que souvent, enfin pendant des années, en fait, toutes les personnes souffrant d'un handicap étaient restreintes à ne rien faire ou en tout cas vraiment pas grand-chose. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus de solutions et d'inclusion. Je trouve ça...
Oui, c'est génial et bravo pour ce que vous faites parce que ça demande beaucoup, beaucoup de courage et c'est pas simple, effectivement, comme vous le disiez, Michel. Effectivement, on peut parler de Café Joyeux, hein, qui ouvre des points de vente, des restos un peu de partout, y compris à New York, je crois, dernièrement. Donc, je pense que ça, on rejoint vraiment, on est au cœur de deux problématiques clés de la boulangerie-pâtisserie, mais globalement de nos sociétés. D'un côté, les problématiques d'emploi et de travail, et c'est une superbe, effectivement, l'exemple du nouveau chauffeur de bus scolaire, c'est génial, c'est dans le cadre du transport, mais on voit ça aussi en restauration. Donc, ça répond de manière très rationnelle à une problématique d'emploi. Donc, c'est un moteur qui pousse ce type d'initiative et ça se couple de manière très très claire sur des volontés de chacun d'entre nous de trouver plus de sens dans ce qu'il fait, d'avoir un impact positif dans ce qu'il fait et donc d'être poussé aussi, qu'on soit consommateur, qu'on soit acteur, de pousser ce type de démarche. Donc oui, on voit fleurir ces initiatives de partout et c'est absolument génial parce qu'encore une fois, on répond à plusieurs problématiques. C'est pas qu'une vision utopiste du monde où on pourrait intégrer tout le monde, ça se raccroche aussi à des vraies nécessités et du coup qui amène une dynamique, y compris des financements qui sont beaucoup plus simples à obtenir.
Est-ce que si on reste sur le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, en tout cas de la boulangerie, ce qui nous préoccupe puisqu'on parlait du pain, est-ce que l'inclusion arrive à se faire, je dirais, à tous les stades de la chaîne, donc au niveau agricole, puis au niveau de la meunerie, puis dans la boulangerie? Je ne sais pas si on arrive à inclure à toutes ces étapes. Il y a parfois des choses qui semblent être un peu plus faciles que d'autres.
Ouais. Alors, on le voit, encore une fois, on le voit fleurir. Ça reste encore relativement peu visible, hein, à l'échelle nationale, évidemment. Quand vous rentrez dans une boulangerie, ça reste rare. Mais oui, c'est tout à fait en fonction des situations des personnes. Et là, on a beaucoup parlé avec vous des personnes... des personnes en situation de handicap, mais je parlais aussi tout à l'heure des personnes qui sont en marge de la société, etc. Donc on a des profils qui sont finalement adaptés à toutes les parties de la chaîne de valeur à partir du moment où on a le bon niveau d'accompagnement, où on arrive à mettre le pied à l'étrier de ces personnes-là, à les former et dans le cadre qui sont dans des cadres qui sont adaptés à ce type de personnes. Donc oui, on le voit de partout. Il y a des boulangeries aujourd'hui qui travaillent à 100% avec des personnes soit en insertion, soit en situation de handicap, et dans les labos et à la vente. Donc oui.
Parce que j'ai l'impression que, enfin, pour en avoir déjà discuté avec des professionnels, la crainte, elle est souvent à la base, c'est-à-dire la méconnaissance amène la crainte, mais finalement, une fois que la personne ou les personnes sont arrivées, on s'aperçoit que ça fonctionne très simplement et ça se met rapidement en place.
Ouais, ce que l'on voit, c'est que de toute façon, si à la base il n'y a pas un engagement très fort de la patronne ou du patron, en tout cas de l'établissement, quel qu'il soit, si on n'a pas un engagement très très fort, c'est très compliqué. Si on n'a pas une vraie volonté et un moment de se dire ça me prendra peut-être 50% de plus de temps ou 100% de plus de temps au début et j'accepte parce que je vois le sens que ça porte, etc., c'est compliqué à mettre en place. Donc cette première dimension, elle est majeure, c'est effectivement l'engagement de la personne à vouloir mettre en place des choses. Si on essaye de catapulter des personnes en situation difficile à gauche, à droite, sans pilotage, ça marche pas, c'est plus compliqué en tout cas. Mais à partir du moment où il y a cet engagement, et encore une fois, je le répète parce que c'est hyper important, il y a un monde associatif qui est extrêmement riche en France, de bénévoles aussi, qui donnent leur temps pour faciliter cet accompagnement. Et sans ces bénévoles-là, ça n'existe pas. Donc oui, c'est hyper engageant, c'est pas simple, ça nécessite beaucoup, beaucoup de maillage avec les associations locales. C'est pas monsieur tout le monde qui a sa boulangerie et qui dit demain, tiens, je prends une personne en situation de handicap ou en personne d'insertion, de réinsertion. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça va vraiment dans le bon sens et ça, c'est génial.
Oh, ça mérite, en tout cas, lorsqu'on est boulanger, pâtissier installé en province, de se renseigner sur une éventuelle association dans son giron d'activité pour tenter, au moins tenter, s'intéresser, se renseigner.
Et exactement. Et si je suis boulanger et que je donne ou en tout cas que ma baguette est recyclée par Andy Gaspi, je rêverais de pouvoir moi aussi vendre mes sachets de biscuits dans ma boulangerie en racontant l'histoire.
Il y a ce chemin-là.
C'est génial aussi.
Vous vendez chez les boulangers
Oui, si. Et d'ailleurs, ce qu'on vient de faire pour être dans une logique d'économie circulaire, donc on est en discussion avec des chaînes de boulangerie pour mettre en place ce schéma circulaire, mais on vient de lancer une nouvelle marque au mois de septembre qui a vraiment pour but de mettre en place ce schéma circulaire et solidaire avec la grande distribution. C'est assez vite, on s'est dit que si on voulait faire bouger les lignes, il fallait qu'on soit là où 80% des gens font leurs courses. Du coup, on collecte les invendus de pain des hypermarchés et supermarchés, qu'on transforme en biscuits et qu'on revend chez eux pour vraiment créer une boucle et prouver aux gens que ces enseignes-là qui n'ont pas toujours bonne presse, en fait, elles sont tellement grosses et elles donnent tellement de monde que si on veut faire bouger les choses, c'est avec eux qu'on peut le faire aussi sur les territoires. Et du coup, c'est une marque qui s'appelle Etoc qu'on a lancée en septembre dernier et qui permet d'embarquer d'autres acteurs dans l'aventure. Et en parallèle, on travaille avec des chaînes de boulangerie pour mettre en place des schémas circulaires en partenariat.
Vous nous parliez tout à l'heure de votre sélection bio. Ça vous semblait obligatoire de transformer exclusivement des choses qui venaient de l'agriculture biologique ?
Alors au début, on a poussé le curseur le plus loin possible sur notre impact social et environnemental. On se rend compte aujourd'hui que pour aller plus loin dans l'anti-gaspi, le bio est un frein. En fait, il y a plein de matières qu'on ne peut pas sauver aujourd'hui. En fait, plus on avance dans l'aventure, plus on est visible, plus les industriels ou les acteurs de l'agroalimentaire nous appellent en disant « moi, j'ai telle matière que je jette que vous pourriez utiliser dans vos biscuits ». En fait, dès qu'ils ne sont pas bio, on ne peut pas les prendre. Et toutes les grosses chaînes de boulangerie en France ne sont pas bio. Donc en fait, si on veut vraiment, nous, nos deux piliers, c'est le handicap et l'anti-gaspi. Donc si on veut vraiment passer à l'échelle sur l'anti-gaspi, en fait, le bio, on aura toujours du bio, mais on va avoir une... Comment ?
Il est trop restrictif.
Exactement. Du coup, on aura toujours du bio, mais on aura aussi une gamme conventionnelle pour nourrir notre enjeu principal.
Alors, est-ce que vous irez gratter dans les listes d'ingrédients de la conventionnelle pour vérifier que le produit est quand même le plus sain possible ?
Oui, bien sûr, on va regarder parce que pour nous, c'est quand même important d'avoir une liste d'ingrédients clean, on va dire, et que ça ne fasse pas peur aux consommateurs. Donc oui, on va faire une sélection des pains si, par exemple, il y a trop de conservateurs, des choses comme ça, on va pas les prendre. Donc là, c'est un tri à faire avec les boulangers et on va vérifier ça.
Un mot sur les emballages qui sont très jolis, que l'on voit sur cette table, parce que ça aussi, ça fait partie, je dirais, du côté durable et co-responsable. Quel a été le choix pour emballer
ces biscuits ? Le choix de ne pas avoir de plastique.
Oui.
Donc ça nous paraissait être un contresens d'être dans une démarche zéro déchet et d'avoir du plastique à usage unique. Du coup, donc, nos boîtes sont en carton recyclable qui sont imprimées à 10 km de la biscuiterie. Et à l'intérieur, les sachets que vous voyez, ils ont beau être translucides comme le plastique, c'est des sachets en fibre de bois qui sont certifiés home compost. Donc vous pouvez les composter à la maison avec vos épluchures de fruits et légumes, ça marche très bien. On a testé et du coup, il y a vraiment zéro plastique dans ces matières-là. Et on a aussi une filière vrac pour la restauration et l'hôtellerie. Et là, c'est des seaux alimentaires qu'on récupère dans les collèges et lycées, qu'on lave et dans lesquels on met nos biscuits et après on les récupère chez les clients. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter tout plastique à usage unique. On en a encore un peu, hein, le film pour les palettes, il est en plastique. Mais sur tous les emballages courants qu'on utilise, il n'y a plus de plastique.
Là aussi, Michael Ballet, c'est un phénomène qui s'étend. Le côté propre, sain, enfin moins de plastique, des choses qui sont compostables, parfois biodégradables.
Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, je relisais le titre de la conférence qui est Démarche 360. Je pense que là, il y a une vraie démarche 360. Et oui, l'emballage, c'est un enjeu clair. Et la boulangerie-pâtisserie se met vraiment en ordre de marche sur le sujet. Le 1er janvier 2025, il y a la loi AGEC qui va rentrer en vigueur pour les commerces de proximité et donc la boulangerie-pâtisserie, et très très restrictif sur les emballages à usage unique notamment. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait sur les emballages à tous les niveaux de la chaîne de valeur aussi. Donc il y a beaucoup de boulot à faire, ça c'est certain. Et effectivement, c'est ce type de démarche-là, super intéressant sur le sachet non plastique mais transparent, de voir et de développer les solutions qui existent. Mais oui, clairement, l'emballage, c'est un sujet clé et ça va être un sujet clé de la profession sur cette année.
Vous pouvez nous éclairer sur, je dirais, le niveau du vrac, parce qu'on a, je crois, tenté beaucoup de choses en vrac, mais je ne sais pas si ça prend vraiment. Je ne sais pas si, notamment, le consommateur est encore prêt à venir avec ses bocaux dans les épiceries, à les remplir, à repartir.
Oui, alors, on peut parler du vrac. Le vrac, on sait que c'est pas simple à mettre en place parce qu'il y a besoin et nécessité d'avoir évidemment l'action du consommateur qui soit dans le sujet. Concrètement, sur la boulangerie-pâtisserie, ça passe par ne serait-ce que le sachet en plastique dans lequel même en papier craft dans lequel on vous emballe votre viennoiserie ou votre baguette quand vous allez chez le boulanger, c'est un emballage supplémentaire. Et donc là, on peut travailler sur des tote bags, on peut travailler sur du réutilisable. Alors je crois qu'on en discutait au moment de préparer. On oublie toujours, enfin moi j'oublie toujours mon tote bag avant d'aller chercher mon pain et donc je rachète un tote bag et j'en ai 20 à la maison. Et donc bon, c'est une discipline de chacun, il y a un vrai travail du consommateur à faire. Mais oui, la boulangerie, quand on réfléchit, on a dans cet univers-là un nombre d'emballages, y compris côté consommateur, qui est important. Et en réalité, on peut tout à fait travailler à une réduction très très importante de ces emballages-là. Alors on a les boîtes de pâtisserie qui sont un sujet aussi, qui sont plus compliquées à complètement supprimer parce qu'on en a besoin pour sauvegarder la pâtisserie. Puis c'est aussi un objet qui vient valoriser quand on offre ou quand on amène chez des amis une jolie boîte de pâtisserie. C'est aussi ça fait partie aussi de notre culture et de nos habitudes. Qu'on peut changer. Alors il y a plein d'initiatives aussi sur de l'emballage circulaire autour de ça, en tout cas de la réutilisation de boîtes pour la pâtisserie. Alors il y a des questions de format, etc. C'est pas simple à mettre en place.
Disons que ça fait que le consommateur cumule des boîtes décoratives chez lui parce qu'il ne sait jamais quoi en faire.
En tout cas, il y a des enjeux, c'est certain, mais l'action est largement possible. Il y a des boulangeries qui sont en avance sur le sujet et sur le travail. Et il y a des caps à passer qui sont assez, assez simples. Et on a un exemple ici où effectivement zéro plastique sur des emballages qui sont super jolis. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de les tenir dans la main. Ils sont super quali. Enfin, ils sont très valorisants pour le produit qui est à l'intérieur. Donc il y a des choses à faire. Et la boulangerie doit se mettre en ordre de marche sur le sujet.
Mais j'avoue que c'est assez bluffant ce qui ressemble à du plastique, donc qui est de la fibre de bois, qui est compostable.
Et c'est aussi un métier que le plastique, parce qu'il y a un sujet avec le biscuit, c'est qu'il ne faut pas qu'il ramollisse.
Oui, parce qu'il y a aussi toutes ces règles d'hygiène et voilà, de sécurité alimentaire.
Il y a des conservations. Nous, il y a 9 mois de durée de vie sur nos biscuits. Donc, il faut qu'au bout de 9 mois, ils soient toujours aussi croustillants. Et du coup, on a réussi à trouver ce matériau qui répond parfaitement à nos attentes en termes de qualité produit et en termes d'enjeux écologiques.
Parce que c'est vrai qu'on ne risque pas d'arriver dès demain à une entièreté de vrac dans les boutiques et donc on continue à avoir l'obligation d'un emballage, ne serait-ce que pour y inscrire les différentes informations nécessaires aux consommateurs. Moi, j'ai été surpris, je ne sais pas si c'est une anecdote ou pas, mais en achetant des macarons chez un pâtissier très connu, de me voir vendre, en fait, en plus des macarons que j'achetais, la boîte, qui était effectivement une jolie boîte, mais dont je ne savais pas trop quoi faire après, mais que j'ai payé en sus de ça. Et je ne sais plus combien je l'avais payé, mais ce n'était pas rien. Alors, ce que je ne sais pas si les gens à qui vous offrez des macarons pensent à garder la boîte pour y retourner ensuite pour la remplir. Parce que non, mais c'est un peu l'histoire
du tote bag.
Elle
était en carton, elle était en quoi Ça se voyait qu'on pouvait la réutiliser ou pas?
Oui, absolument. Ouais. Oui, ouais. Mais c'était, en tout cas, c'était vendu comme tel. Voilà. Bon. En tout cas, bravo pour cette démarche. On va proposer aux gens qui assistent à cet échange de vous poser des questions. Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser sur des sujets que nous n'avons pas, peut-être pas encore évoqués? Il vous suffit de lever la main, je me déplace vers vous.
La petite Alice avec son famille a une question.
Petite question? Ou une grande question même? On prend toutes les tailles de questions. De la petite à la plus grande. Non, définitivement pas. Bon, eh bien alors,
j'ai une précision.
Ah, alors allez-y.
C'est que du coup, vous allez pouvoir goûter les biscuits. C'est bien beau de nous écouter, mais du coup, le mieux, c'est quand même de les goûter.
Donc, vous avez bien fait de venir.
Donc, vous allez pouvoir goûter trois de nos recettes.
Eh bien, grand merci. Voilà, vous allez pouvoir vous approcher pour goûter ces biscuits. Et je vous invite à applaudir nos intervenants pour leur participation. Donc, Mickaël Ballet, directeur associé de Food Service Vision. Katia
merci
Tardy,
beaucoup.
Cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. Et je suis navré, j'ai oublié. Et Alix, voilà, également donc cofondatrice de cette très jolie aventure. Dans quelques minutes, à 12h45 précise, nous allons retrouver Rodolphe Landemaine, fondateur de Lamb & Monkeys, qui vient nous parler de son aventure entrepreneuriale et de la manière dont il a construit toute son entreprise aujourd'hui. À tout à l'heure.